Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Variant britannique annonce imminente d'un troisième confinement qui n'a pas en ce moment le sentiment que nous tombons de Caribe en Scylla, comme le dit l'expression. Eh bien, peut-être par grâce, qui sait, notre invité de ce matin nous invite d'une certaine manière à rebrousser chemin, à décider de faire demi-tour, à choisir l'espérance et à monter intérieurement vers Jérusalem, à chanter, sortir les instruments, battre des mains. Une longue méditation de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, sur les psaumes des montées. En route. Les psaumes des montées, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, et le titre de votre livre, ou presque, les 15 cantiques des montées, paru aux éditions Parole et Silence, en partenariat avec les presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse. Avec vous, Mgr Robert Le Gall, vous êtes, pour rappel, archevêque et métropolitain de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
J'aurais pu dire en marche même, puisque c'est comme ça que vous commencez presque votre livre. Mais avant qu'on se plonge dans ces psaumes des montées, en ces temps où il est bon de rebrousser chemin pour monter vers Jérusalem, les psaumes de montée, c'est donc ce que chantait le peuple d'Israël quand il montait vers Jérusalem.
Un pèlerinage vers la cité sainte.
Voilà, on va un petit peu voyager, on en a tous besoin en ce moment, et semble-t-il vous aimez ça aussi, voyager. Vous avez écrit ce livre dans des endroits fort mystérieux, peut-être pour certains d'entre nous, sur l'île de Wight, et puis au large de l'Écosse. C'est comme ça que vous commencez. Vous dites qu'après les journées mondiales de la jeunesse, vous êtes allé...
De
Cracovie, en 2016, vous êtes allé presque vous cacher au nord de l'Écosse. Où êtes-vous allé et pourquoi là-bas peut-être?
Et je revenais de Cracovie, c'était au début août, je crois, 2016, c'est bien ça, 2016. Et je suis passé par l'île de Wight en Angleterre, où je pense un peu me retirer, quand j'aurai terminé ma charge d'archevêque à Toulouse.
Donc au sud de l'Angleterre.
C'était tout à fait au sud de l'Angleterre, face à Portsmouth, et sur la côte sud. Et j'étais venu pour la bénédiction abbatiale du père abbé, nouveau père abbé, qui était mon sous-prieur à Cargo. Dans mon abbaye, et donc je suis parti ensuite, je l'avais prévu, pour un temps de repos.
Dans les Orcades.
10 jours dans les Orcades, les Orkney Islands.
Qu'est-ce que c'est que ces îles?
C'est un archipel qui se trouve entre les Shetland. Shetland, vous savez, c'est très au nord, c'est vers l'Islande, mi-chemin entre le Danemark et l'Islande, si on peut dire, les Shetland. Et au-dessous, vous avez les Orcades, les Orkney Islands, qui est un archipel d'îles plates, je suis allé donc parce que j'avais entendu parler de cette île par un moine dans Calca, j'avais savais ça en tête, et comme j'aime la mer et j'aime les voyages, j'en ai fait, puis seul pendant 10 jours, seul dans une île, je logeais dans un B&B.
Il y avait quand même quelques moutons, non?
Il y avait beaucoup de moutons et beaucoup de vaches et des veaux, etc. Et un certain nombre de fermiers quand même dans les fermes. Mais j'étais dans un B&B à la ferme. Et je marchais, je dormais, j'écrivais, je priais, et je nageais aussi pendant ces 10 jours. Et j'ai écrit donc ces commentaires des 15 psaumes et des montées, des psaumes graduels, comme on les appelle aussi, en marche, comme vous disiez, mais aussi c'est des marches. Sur la première page de couverture du livre, en effet, c'est les marches du Mont Saint-Michel. Je suis né tout près du Mont Saint-Michel, hélas en Normandie, mais tout près de la Bretagne, pas loin du Couesnon.
On peut dire donc que c'est les psaumes 119 à 133. Alors vous commencez dans votre préambule, « En marche, les pauvres de cœur ». J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les psaumes, comme moine bénédictin, ce qu'on le reste malgré tout, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Entrer dans les psaumes, pour ceux qui n'en sont pas familiers, vous nous dites en fait les psaumes, alors vous avez une expression, tout psautier est un carnet de route, un recueil des chants pour les pèlerins de la cité céleste. Comment vous présenteriez les psaumes pour les néophytes que nous sommes?
Un psaume, d'après la signification du mot lui-même, psalmos en grec, c'est le fait de toucher une corde pour la faire chanter. Donc c'est un instrument, un psaume est une prière, et qui est destiné à être chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. mandoline, guitare, harpe, le sitar, tout ce que vous voulez comme ça. Et donc, au-delà même de l'expression concrète de ces cordes, des instruments à cordes, c'est également, ça touche nos cordes vocales, les cordes de notre âme, ça fait vibrer un peu notre âme. Donc, les psaumes, c'est la vibration d'une âme dans toutes les circonstances de la vie, dans l'angoisse, dans l'attente, dans la joie de la paix, et etc. Et les 15 psaumes démontés donc nous apprennent à faire vibrer l'âme dans toutes les circonstances qui sont les nôtres. Et comme nous dirons peut-être, ça commence pas bien, ça commence de manière difficile, et il y a toutes les couleurs de nos paysages intérieurs y passent dans ces 15 petits psaumes, qui sont des petits joyaux. Le propre de cette collection de 15 psaumes, c'est que c'est des psaumes courts. C'est vraiment des petits joyaux de prière, et donc qui sont capables de nous faire vibrer.
Alors en l'occurrence, je propose qu'on commence par le psaume 123. Vous rappelez aussi que les psaumes, c'est dans votre propos introductif, hein, c'est aussi à l'image du combat intérieur que vit chaque chrétien.
C'est ça, c'est un carnet de chants, mais c'est également
des
chants de guerre, des chants de guerre et de combat du peuple de Dieu, du premier jusqu'au 150e.
Alors il faut dire que ce livre a été écrit aussi comme une adresse, on va dire, aux fidèles.
Oui, c'était pour le diocèse de Toulouse que j'ai écrit ça.
Et puis on peut peut-être élargir, puisque vous êtes donc métropolitain, ce qui veut dire que vous avez une autorité donc spirituelle et morale sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. Alors dans ce psaume 123, au début de cette émission, j'ai envie que vous nous donniez un petit peu des clés à la lumière des psaumes sur ce que l'on vit et traverse. Psaume 123, je vous laisserai citer peut-être certains extraits.
Précisons toujours aussi qu'il y a deux numérotations pour les psaumes. Il y a celle de la liturgie qui est celle que je me maintiens dans le livre 523 et 524 en hébreu, parce qu'il y a une, je ne vais pas entrer dans cela, mais enfin il y a deux numérotations, donc c'est 1, 2, 3, c'est comme pour entrer à la radio, on fait 1, 2, 3, 1, n'est-ce pas?
Donc là, en l'occurrence, il faut dire, sans Yahvé qui était pour nous à Israël, de le dire, sans Yahvé qui était pour nous quand on sauta sur nous, alors ils nous avaient tous tout vifs dans le feu de leur colère. C'est bien celui-là.
C'est bien, tout à fait.
Alors,
absolument.
Vous laissez entendre donc dans votre méditation, dans les temps où nous sommes, il n'est pas difficile d'appliquer ce psaume à notre situation mondiale. Je laisserai lire un extrait davantage. Hein. Les violences inspirées par le fanatisme religieux, des responsables politiques qui cherchent leur intérêt, la nature pillée. On a l'impression, comme je le dis de temps en temps à cette antenne, qu'aujourd'hui on se prend brique sur brique sur la tête et qu'on a du mal à relever la tête. En l'occurrence, ce psaume peut nous aider à regarder, à relever la tête, et si oui, comment, Monseigneur ?
C'est vrai que les psaumes nous paraissent souvent étrangers, d'avant le Christ, bien avant le Christ, presque 10 siècles avant le Christ, avec David en particulier. Mais l'âme humaine reste la même, et les situations humaines et les relations entre les hommes, les guerres, les conflits, les combats, tout ceci demeure malheureusement. Et c'est pour ça que ces psaumes sont capables de nous toucher. Et donc l'expérience que fait ce... C'est marqué ici « Cantique des montées » de David à propos de ce psaume 123e. Et sans que le Seigneur était pour nous, si le Seigneur n'avait pas été avec nous, des hommes nous assaillirent, nous avalaient tout vivant. Donc on est perdu. La Covid, comme on l'appelle maintenant, les affrontements, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, donc toutes ces difficultés, sans parler de l'Iran, de l'Arabie, et d'Israël, etc., nous montrent qu'on est vraiment dans des situations difficiles. Et là, ce psaume n'élude pas la question. Le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Mais, et après ça, qu'est-ce qu'il y a ? Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. En même temps, donc tout ça c'est concret, mais en même temps on crie, c'est un cri vers le Seigneur comme beaucoup de psaumes, et béni soit le Seigneur, et comme un oiseau nous avons échappé au filet du chasseur. Hop, le filet s'est rompu, et c'est une sorte d'enchantement, et la dernière phrase est « Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ». Donc notre sauveur, c'est aussi le Créateur.
Alors vous dites aussi, prions le Seigneur de nous rendre souples et agiles comme des oiseaux, prudents aussi pour ne pas nous laisser prendre aux pièges multiples qui risquent de nous plaquer au sol. Si on en prend un autre, cette fois c'est le psaume...
D'autant plus que le filet, je crois que je note ça un moment ou l'autre, le filet ça se dit net en anglais, net. Et donc l'internet... C'est également un de ces filets dangereux. On parle beaucoup actuellement de WhatsApp, vous savez, ou de Facebook, etc. Et donc, attention de ne pas prendre au filet maintenant. Et je suis très gêné maintenant, quand on va sur Google ou ces choses analogues, on dit, est-ce que j'accepte ? Il faut toujours accepter. Il faut accepter, mais accepter quoi ? On ne va pas dire le détail. C'est quand même impressionnant. Alors, ce net, échappons au filet.
Psaume 126, les enfants dons de Dieu, c'est pareil, on va dire que charge à vous de citer des passages, mais avant cela donc je cite aussi cet extrait de votre méditation. Rien ne peut se faire de durable sans Dieu, mais avec lui tout est possible, dites-vous. Que dit ce psaume et pourquoi cette invitation pastorale?
Et ça commence si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Donc nous sommes tous des bâtisseurs, héritiers et bâtisseurs, comme disait le pape Jean-Paul II avant l'an 2000. Et si le Seigneur garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Un évêque, c'est un veilleur. C'est un Grégoire, il veille sur la cité et sur son diocèse, avec les prêtres et avec toutes les communautés chrétiennes. Donc, mais que puis-je faire moi si le Seigneur n'est pas avec moi ? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le verset 2 dit que c'est pas la peine que tu travailles excessivement, ne repose-toi quand même, et fait allusion de manière très délicate au fait de l'engendrement, de l'accouplement. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Et ensuite, des fils et des enfants qui viennent. Et les enfants sont la force des familles et la force de leurs parents. Et s'ils affrontent leurs amis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Donc les enfants seront là pour défendre leurs parents au moment donné, quand ils auront pris de l'âge, etc. Donc c'est l'exemple d'une famille que le Seigneur garde et fait grandir.
Mais justement, dans le contexte qui est le nôtre, si on met notre confiance en Dieu, à quoi peut-on s'attendre quand vous dites rien ne peut se faire de durable sans Dieu? La crise actuelle, c'est ce que vous laissez entendre dans cette méditation. Hein.
Oui.
Il faut mettre Dieu à la première place. Pourquoi? Parce que ça peut tout changer.
La première place, c'est Dieu qui nous a aimé le premier, comme dit saint Paul. Et si nous n'adhérons pas au Christ, nous n'adhérerons pas à tout son mystère, qui est un mystère de passion, de mort et de résurrection. N'oublions pas que, comme le dit la Sainte Vierge à Bernadette, pas loin d'ici, je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Donc la véritable maison que nous bâtissons, c'est celle de la demeure du ciel. Et la cité, les psaumes graduels, les psaumes démontés, c'est vers la Jérusalem d'en haut. Et n'oublions pas que c'est à travers la construction de la cité d'ici-bas, c'est vers une autre cité que nous allons, celle de la Jérusalem céleste. Ne l'oublions pas. Donc ça ne nous évade pas de notre condition humaine et de sa complexité, mais ça nous invite à travers ce pèlerinage, c'est ça les pèlerins des montées, à aller vers cette Jérusalem d'en haut où le Seigneur sera tout en tous.
Alors c'est un livre dans lequel aussi vous mettez quelques touches personnelles, entre autres vous avez ce mot disant que la tâche d'évêque ou de père abbé, pardon, vous comparez, puisque vous avez été donc père abbé il fut un temps aussi. Vous dites que dans la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît compare la charge du père abbé à l'adaptation héroïque d'un caméléon placé sur un tissu écossais, disant même qu'il en mourrait d'épuisement. Mais ce que je veux souligner surtout dans cette méditation, c'est que vous dites qu'il faut une vraie force d'âme pour se prêter dans la paix, à ce travail divin, en nous, pour nous et par nous. Vous laissez entendre que la vraie force, la force de l'homme qui cherche la paix, et dans les circonstances que l'on vit, c'est vrai que c'est difficile, c'est en fait la marque d'une vraie force d'âme. Expliquez-nous.
La force d'âme n'est pas le fait d'emporter des citadelles, etc., avec un commando. Et la véritable force d'âme, comme dit saint Thomas d'Aquin, que nous allons célébrer cette semaine aux Jacobins, jeudi prochain, et la vraie force d'âme, dit saint Thomas, c'est de tenir dans les épreuves. De tenir. de tenir. Et donc, on peut en faire l'expérience pendant ces confinements, déconfinements, reconfinements, etc., comme on en fait l'expérience. Et c'est ce que Jésus, pendant sa passion, il a tenu. Nous célébrions trois martyrs la semaine dernière, et qui étaient Fabien et Sébastien, les deux, en fait, Sainte Agnès et Saint Vincent ensuite. Ils ont tenu. Ils ont tenu, et c'est la véritable force, c'est celle-là. Et dans mon expérience de père abbé ou d'évêque, j'ai connu des crises, j'ai connu des difficultés, des joies bien entendu aussi, grâce à Dieu. Nous avons des difficultés aussi, nous avons des difficultés de mise en place de la radio aussi. J'en ai connu des crises, mais tenir dans l'épreuve. Tenir et puis voir comment en sortir de manière positive, c'est là l'objet de la force éclairée par les Écritures, par Dieu, par les sacrements, etc., par la prière. Et ça c'est la véritable force.
En marche, les pauvres de cœur, vous citez André Chourac qui au début oui, de votre préambule.
Oui, c'est bien heureux. Ça, en effet, littéralement en hébreu, un des sens en hébreu de Ashrei, et ça veut dire en effet en marche.
En marche. En marche. En marche, les pauvres de cœur, ça aurait pu être aussi le sous-titre de votre livre. Les 15 cantiques démontés par l'édition Parole et Silence et Presse universitaire de l'Institut catholique de Toulouse. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour quelques, on va dire, incitations ou invitations pastorales qui égayent aussi cet ouvrage.
Emmanuel Pella.
Les psaumes démontés, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Mgr Robert Le Gall, archevêque métropolitain de Toulouse, auteur donc d'un ouvrage paru aux éditions Paroles et Silences et les putes presses universitaires de Toulouse, les 15 cantiques démontés, avec ce sous-titre des psaumes pour nos chemins d'église. Alors ce livre qui se veut donc aussi être comme une forme de lettre pastorale, vous l'égayez au regard de ces commentaires que vous faites de ces psaumes démontés, de quelques conseils pastoraux. Avant ça, vous avez commencé de le faire, mais redites-nous ces psaumes démontés, donc, qui sont donc 15 psaumes, du 119 au 133. Quand on dit donc, que les Hébreux les chantaient en montant vers Jérusalem en pèlerinage, c'est ça
En pèlerinage depuis l'endroit où ils vivaient, mais particulièrement dans la dernière étape, les dernières étapes où ils montaient vraiment, comme on monte actuellement encore, des marches, des nombreuses marches pour monter jusqu'au temple qui est sur la hauteur. Donc, Shir Amahalot, littéralement en hébreu, ça veut dire Shir, c'est cantique, Shir Hashirim, c'est cantique des cantiques, et Amahalot, c'est vraiment de monter physiquement. Et donc, vous voyez encore actuellement, quand vous êtes à Jérusalem, nous, comme pèlerins, on monte des marches, et les juifs qui sont là, avec ceux qui sont dans leur chapeau de poil pour certains d'entre eux, des roues flaquettes pour d'autres, etc. Et donc, ils sont en train de monter.
Et ça se montait en chantant et aussi au son des tambourins et autres,
ça dépend des circonstances, mais quelquefois en silence, mais aussi en groupe, en famille. Aussi, il me monte ce degré. Et que comme moi-même, petit, d'abord dans les bras de mon père, j'ai monté les degrés du Mont-Saint-Michel pour monter à l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Et ensuite, quand j'ai grandi, je montais ces marches. Mais pour moi, c'est un souvenir, un vrai souvenir, un beau souvenir.
Et c'est la couverture de votre livre.
C'est la couverture du livre.
Alors, psaume 119, le péril de la langue, la guerre et l'exil. Vous nous parlez, on va dire, des journalistes. Mais en creux d'une certaine manière de chacun d'entre nous. Journaux, chaînes de télévision et radio sont le plus souvent porteurs de nouvelles négatives et violentes. Un petit peu plus loin, il nous faut sans cesse réapprendre à voir le bien, à dire du bien, à faire le bien, au lieu de voir le mal, de dire de mal et de faire du mal. Ma question, parce qu'on sent que c'est une adresse évidemment, on va dire à chacun d'entre nous, ça veut dire quoi? Vous parlez quoi dire du mal, de la maladie, de la médisance dans l'Église? Le pape François en parle souvent.
En effet, mais le premier des psaumes démontés, le 119e, et donc c'est dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur. Ça commence. Et délivre-moi de la langue perfide, que t'infliger langue perfide. Malheur à moi, je suis en exil. Ça va pas bien. Donc on est vraiment. Alors apparaît ensuite, trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. La paix qui est un peu le fil d'Ariane, un petit peu de tous les psaumes. Mais là, ça commence mal. Il n'est pas dans la paix. Et bien, il demande la paix. Et comment la paix est liée au bien, la paix c'est le bien dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions, pourrais-je dire, la paix. Et en effet, c'est suite à en effet, une homélie que j'ai faite lors d'une rentrée des directeurs d'établissement d'enseignement catholique il y a 7 ou 8 ans, avec un texte de Saint Paul, et qui parlait de faire le bien et de voir le bien, etc. Moi, j'ai ajouté de dire le bien, et vraiment ça m'a beaucoup touché, et j'en suis revenu souvent là-dessus. C'est une des choses que je reprends volontiers, donc, voir le bien, dire le bien et faire le bien, alors qu'on a tellement tendance à voir le mal. Comme vous disiez, en effet, les gens, quand le journal télévisé, et c'est quelquefois malsain même d'entendre tout le temps ce qu'on nous dit sur la pandémie, sur le coronavirus, parce que ça nous fait baigner là-dedans continuellement. Donc, voir le bien au lieu de voir le mal, dire du bien au lieu de dire du mal, qu'on a tellement de facilité à dire du mal, ça fait tellement de bien.
Y compris dans l'Église.
Y compris, bien évidemment. Ça fait tellement de bien de dire du mal, tu parles. Ça fait du bien peut-être d'une certaine manière, mais ça reste un goût très amer. Et faire le bien. Et en même temps, je crois, je ne sais pas si j'ai noté là, mais en fait, un peu plus tard, je me suis rendu compte que c'est la toute première page de la Bible où Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit que c'était beau et c'était bon. C'est les trois verbes qui rythment un petit peu la toute première page de la Bible pour la création. Donc, c'est extraordinaire.
Dans nos communautés chrétiennes, sommes-nous des artisans de paix, ce que Jésus salue en sa 7e béatitude, vous dites la sensible sur la gamme des 8, cherchons-nous l'apaisement dans la vérité et dans la charité. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle du psaume 122, on continue notre balade à travers ces psaumes démontés, les yeux levés vers le cœur sur la main.
J'aime beaucoup ce psaume.
Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu attend sa pitié. Vous laissez entendre que l'image de l'esclave peut nous heurter. C'est mais vrai, qu'elle dit quelque vrai, chose de vrai. Profond sur l'attitude qu'on doit avoir à l'égard de Dieu, c'est-à-dire
et c'est-à-dire un regard de confiance, de pleine confiance. Et vers toi, je lève les yeux, je lève le cœur, etc. Et donc, on sait, la prière, c'est un mouvement, on joint les mains, on tend les mains vers Dieu, comme dans les catacombes, ce qu'on appelle l'orante, dans les catacombes. Et donc, on lève spontanément le ciel, c'est là où réside Dieu, et la terre, il l'a créée aussi, mais on regarde vers lui.
Mais Monseigneur, quand on pense esclave, on ne pense pas forcément confiance, a priori.
Et non, c'est exact. Mais c'est pour ça que la traduction ne parle pas si elle parle de l'esclave, mais elle parle de la servante ensuite. Et donc, c'était à l'époque où, en effet, le psaume a été chanté ou est composé. C'était la situation des esclaves était là, mais il y avait aussi des esclaves qui étaient de la famille, et qui étaient comment des familiers, si on peut dire, et qui donc vivaient dans ce toit familial, le toit de la famille, avec une pleine confiance.
Et c'est-à-dire qu'il faut apprendre, en fait, derrière ça, à dépendre radicalement de Dieu.
C'est tout à fait. Et une des choses qu'on peut regarder véritablement, c'est l'image de la médaille miraculeuse de Paris, vous savez, Notre-Dame à Paris, la rue du Bac.
Donc un lieu d'apparition mariale à la fin du 19e siècle.
Elle a les deux mains.
Où la Vierge Marie avait demandé à ce que soit frappée une médaille, voilà. Et on voit la Vierge Marie les mains ouvertes.
Les mains ouvertes avec les... Alors on regarde une pleine confiance en Marie, et depuis l'icône de Sœur Faustine, donc qui est la première canonisée du troisième millénaire par Jean-Paul II, l'icône, quand Jésus dit confiance en toi, et le Christ c'est comme ça.
Donc, Sœur Faustine,
et du son cœur.
Une mystique qui avait vu le Christ. Je fais juste des digressions pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, une mystique qui a vu le Christ, canonisé donc, et qui a présenté un tableau qui lui aurait été donné, on va dire, de la part de Dieu. C'est ça. On voit aussi le Christ.
Il a les deux mains comme ça, mais de son cœur que sortent une sorte de rayon laser, comme je l'appelle, rouge et blanc. Rouge, c'est le sang, d'après Saint Jean, quand le Christ, le corps transpercé, le sang qui a coulé, et l'eau, il coule là du sang d'abord et de l'eau, et c'est un rayon rouge et blanc, blanc-bleu.
Et pourquoi vous prenez cette image pour illustration de la dépendance radicale qu'on doit avoir à l'égard de Dieu?
Parce que ce Christ a les mains ouvertes pour nous accueillir, et notre réaction par rapport à ça, c'est d'aller dans ses bras, comme dans les bras de la Vierge à rue du Bac. Donc c'est la même image. Et qui suscite la même réaction de confiance et de totale confiance, de remise de soi entre les mains de Dieu. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, c'est un psaume 30.
Psaume 133, au cœur du temple.
C'est le dernier des psaumes, c'est le dernier des petits psaumes.
Vous nous parlez, entre autres, de l'Emmanuel, d'un Dieu qui vient habiter avec nous. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur un aspect de votre méditation. Vous laissez entendre que, et c'est parfois un peu ce qui peut y avoir de déroutant pour on va dire, tout à chacun, alors peut-être moins pour vous, mais pour les fidèles, c'est qu'à la fois Dieu est un Dieu qui se rend proche, comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, et en même temps, c'est un Dieu qu'il faut constamment chercher, vous laisser entendre un petit peu plus loin, que nous avancions dans notre chemin, nuit et jour, le regard fixé sur la Jérusalem d'en haut. Quel étrange Dieu que ce Dieu qu'il faut à la fois chercher et qui en même temps est parmi nous. Parfois on s'y perd un peu.
Et comment? C'est les épreuves dont parlent les mystiques, mais c'est nos épreuves quotidiennes aussi. Un des termes qui reviennent très souvent dans les psaumes, c'est en effet chercher Dieu, comme dans la règle de Saint Benoît aussi. Il faut chercher Dieu, rechercher Dieu, parce que c'est un petit peu comme l'étoile des mages qui commence par les guider, puis top, elle s'évanouit, on ne la voit plus. Il y a des nuages qui la cachent, etc. Puis elle réparait. Et puis il y a des nuages qui reviennent encore après. Et donc dans notre vie, c'est un petit peu comme ça. Le Seigneur nous fait des coucous, ou alors comme le fiancé du Cantique des Cantiques, qui est un des plus beaux textes de la Bible dans l'Ancien Testament, le fiancé arrive, mais il fait un peu celui qu'il faut attendre, etc. Il avance, il se retire. Et donc notre vie est ainsi faite, comme dans les relations humaines. Les relations humaines, que voulez-vous, et c'est jamais quelque chose de fixe et de continu. Il y a des hauts et des bas. Et donc on perd le fil parfois, mais on le retrouve. Et ça fait partie de notre condition humaine et de notre marche, de notre pèlerinage. Les pèlerins, ce n'est pas tous les jours drôle, il ne fait pas toujours beau, mais il faut marcher jour après jour. Il faut marcher. Et donc on avance, pèlerinage.
Vous avez un autre passage aussi, l'homme, lui, a eu plus de mal à demeurer près de Dieu, comme en témoignent les aléas de l'histoire du salut, sans parler des faiblesses personnelles de chacun d'entre nous. La vie chrétienne, ça serait donc d'apprendre aussi à reconnaître ce Dieu qui a décidé de planter sa tente au milieu de nous. Dieu s'est habitué à vivre avec les hommes dès les premières alliances, dites-vous.
C'est vrai, c'est une des formules qu'emploie aussi saint Irénée, un des premiers docteurs de l'Église. Dieu s'est habitué à vivre avec nous, et dès l'Ancien Testament, en effet, l'attente de la rencontre dans le désert, puis le temple de Jérusalem, manifester cette demeure de Dieu parmi nous, Emmanuel. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre le sens de votre nom, Emmanuel. C'est Dieu avec nous, et Dieu est avec nous pour que nous soyons avec Dieu. Le Seigneur soit avec vous, comme dit le prêtre au début de la messe, et avec votre esprit, c'est-à-dire avec la grâce que tu as de nous permettre d'être en lien avec Dieu. Et donc Dieu est avec nous pour que nous soyons avec Dieu. Mais Dieu est avec nous, ça demeure dans l'Eucharistie, ça demeure dans les sacrements, dans la présence réelle, comme on l'appelle. Mais c'est plus difficile que nous soyons avec lui. Donc toute la vie spirituelle, ça consiste à être vraiment des Emmanuel. Et donc, merci de nous y aider, Emmanuel.
C'est ce que vous dites. Psaume 126, à la maison. Alors vous dites que ça commence, c'est le pape François qui, dans son exhortation apostolique sur la famille à Maurice Laetitia, commence par ce psaume. J'aimerais que vous nous parliez, à la fin, on va dire, de cette deuxième partie d'émission, on essaie de voir un peu la dimension pastorale de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, les 15 cantiques démontés, de la promesse, quelque part, qui est attachée à ce chemin que l'on fait avec Dieu. Il faut montrer des chemins du bonheur. Il me semble que ça, c'est écrit le pape François. Quelle est la promesse que Dieu nous fait? Quelle est la promesse qu'il fait dans ce psaume, Monseigneur Le Gall?
Vous parlez du psaume 127, n'est-ce
127.
Pas 127. Et c'est encore ce cantique démonté, avec le titre que donne la traduction officielle liturgique, « Tu verras les fils de tes fils ». Bon, cette promesse, c'est une promesse d'une postérité, donc d'une fécondité. Fécondité, postérité. Et j'étais frappé en effet par le fait que dans son exhortation apostolique après le synode des deux synodes sur la famille, à Maurice Laetitia, le pape cite trois psaumes démontés. Trois. Le 127 d'abord le 126 qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le Seigneur qui bâtit la maison, et puis le très joli petit psaume, le psaume 130, qui est un des plus petits. Et si Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni regard ambitieux, je poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Petit joyau, un des plus beaux joyaux de ces joyaux que constituent ces 15 psaumes. Et donc la promesse, c'est une promesse familiale. Et le pape commence à citer entièrement ce psaume au tout début d'Amoris Laetitia. Donc c'est pour dire la pertinence, l'actualité des psaumes et la lumière que cela donne à notre vie, quelquefois difficile. La vie de famille, vous le savez bien, nous avons tous vécu dans des familles, moi aussi, c'est pas toujours facile ni rose, mais en même temps c'est un lieu d'accomplissement des promesses privilégié.
Alors vous prenez une image que prend aussi le psaume, on va dire on a l'impression que c'est comme une incarnation justement de la promesse que Dieu nous fait, qui sont ces femmes que Dieu, on va dire, que Dieu bénit. Ses épouses et ses mères, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse.
Oui.
J'allais dire, vous n'êtes pas à la place de Dieu, mais pourquoi Dieu prend cette image de la femme, on va dire, la femme parfaite ou la femme fidèle, la femme qui est une vigne généreuse?
Ça, c'est une des constantes d'ailleurs de la Bible. Dans un des livres, le livre de la sagesse en particulier, il y a un des derniers chapitres, c'est sur la femme parfaite, le chant de cette femme qui est à la maison, qui est efficace, présente, toujours disponible, etc., pour son mari et pour ses enfants. Et l'image de la vigne est quand même une image qui traverse la Bible et qui a été illustrée par les propos de Jésus dans les discours d'adieu, où il a dit je suis la véritable vigne et mon père est le vigneron. Donc lier la femme à ce mystère de la vigne que Jésus est lui-même, c'est quand même très fort. Et ensuite les oliviers, il y a l'olivier comme des plantes d'olivier, c'est toute une flore qui est une flore et des fruits qui nous sont présentés là. Et donc c'est le concret aussi de la Palestine, avec la vigne, les oliviers, etc. Donc ceci est concret et clair. Et donc fécondité et postérité, et la femme qui est comme l'âme de la maison, et qui est la fée du logis, comme on dit en français régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je profite pour saluer les femmes, les mamans, qui sont si nécessaires à la vie de la société. Et le pape récemment a montré aussi comment, dans l'Église, faire que la femme ait davantage un rôle qu'elle a déjà, mais davantage reconnu.
Voilà, vous nous invitez à prendre ce psaume, on va dire, comme base, quelque part, de notre vie, avec cette promesse. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur de Sion, que le Seigneur te bénisse. Les 15 cantiques démontés, c'est le titre de votre ouvrage, Monseigneur Le Gall, paru aux éditions Parole et Silence et les presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse. On fait une deuxième pause, et puis on va vous retrouver pour quelques questions plus personnelles, puisque vous y prêtez dans votre livre, alors je vais en profiter.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les psaumes démontés, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église ce matin, avec comme invité, pour rappel, Monseigneur Robert Le Gall, qui est archevêque et métropolitain de Toulouse. Ouvrage intitulé donc Les 15 cantiques démontés, avec ce sous-titre Des psaumes pour nos chemins d'église, paru pour ceux qui nous rejoindraient pour mémoire aux éditions Parole et Silence et des presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse. Alors je le disais, vous commencez votre préambule avec ce titre, où vous citez André Chouard, Chouraki « En marche les pauvres de cœur ». C'est ainsi qu'André Chouraki, dites-vous, traduit le premier mot des béatitudes. Il veut entraîner au bonheur. Le bonheur n'est pas statique, il nous amène à nous déplacer, à voyager, à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, pour pèleriner vers l'autre qui est Dieu. J'aimerais profiter donc du fait que dans votre ouvrage, vous parlez un tout petit peu indirectement de vous. Voilà, il y a une dimension assez personnelle à ces commentaires. Le premier qui vous tient à cœur, je le sais, et c'est un thème sur lequel il faut revenir et re-revenir, c'est le thème de l'unité. Alors le psaume 132, « Vivre ensemble et être unis ». Différents, tous importants pour les uns pour les autres, mais pas divergents ni opposables. C'est aussi, on va dire, un leitmotiv du pape François. Alors c'est probablement la marque des pasteurs, hein. L'unité est supérieure au conflit, dit-il souvent. Dites-nous un mot de ce psaume qui est une longue invitation donc à l'unité et pourquoi il vous touche tant.
Nous avons parlé tout à l'heure aussi du psaume 130 qui était « J'ai pas le cœur ambitieux, je tiens mon âme silencieuse comme un enfant contre sa mère ». Il y en a un des joyaux parmi les joyaux. Le 132 aussi, où il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Un baume précieux qui descend sur la barbe, etc., qui est un onguent qui coule, etc., qui parfume et qui donne de la joie d'être ensemble. Et de fait, quand on a une responsabilité de communauté, qu'il s'agisse d'un père abbé comme je l'ai été pendant 18 ans, ou d'évêque, c'est ma 20e année d'évêque, ce qui tient à cœur essentiellement, c'est de travailler humblement, mais résolument, à l'unité de cette communauté, ou de ces communautés, dans des diocèses, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus diversifié, mais travailler à cette unité dans la diversité. Et hier, nous étions à la cathédrale pendant 2 heures, on s'est gelé par d'un côté avec 2 heures de prière organisées par le chemin neuf.
Qui veut déclore la semaine de l'unité des chrétiens.
De l'unité des chrétiens. À un moment ou l'autre, j'ai dit aussi que ça nous tient, l'unité des chrétiens nous tient à cœur, mais l'unité de l'Église catholique aussi, c'est un travail constant à faire. Et je pense que dans votre famille, que dans nos familles, dans nos communautés, quelle que soit la taille, dans une réalité comme la radio aussi, comment travailler à l'unité dans la diversité, dans la paix, et pour la paix.
Est-ce que ce psaume donne des clés, on va dire, que nous disent les psaumes là-dessus ? Parce que ça peut paraître, c'est comme l'unité des chrétiens, ça peut paraître comme un rêve, comme un horizon, comme, on va dire, ça désigne certes le royaume de Dieu, mais l'unité dans la diversité, le pape François aussi a une image qui est celle du polyèdre.
C'est polyèdre, souvent il vient bien cette image-là, cet examen.
On s'y perd et on se demande un petit peu comment cheminer.
C'est un fait, il y a toujours cette espèce de joyau, de cristal à plusieurs facettes, et il est magnifique. Mais quelquefois, il s'opacifie, il se fractionne ou se fracture, on peut dire aussi, pour prendre un peu cette image. Mais je prends le baume. Le baume, ça suppose aussi qu'il y a quelquefois on souffre, et comme un baume, ça adoucit. Il y a forcément des difficultés, il y a forcément des heurts, il y a forcément des difficultés, des divergences, parfois. Mais l'autre image est celle de la rosée. Et la rosée, je regrette qu'on n'a pas gardé cette image dans la traduction française du missel romain qui va paraître nouveau dans la pré-eucharistique 2. « Spiritus tui rore sanctifica » au moment d'épiclèse de la pré-eucharistique 2. Et donc sanctifie ses dons par la rosée de l'Esprit-Saint. La rosée de l'Esprit-Saint, c'est une image traditionnelle. La rosée, c'est ce qui descend sans bruit, doucement, qui au petit matin, entre l'aube et l'aurore, donc descend sur la nature et l'humidifie.
Alors vous voulez dire quoi? Qu'en fait, dans le fond, l'unité, c'est un don de Dieu, c'est ça?
Bien évidemment, c'est un don de Dieu. Et ma devise de Père Abbé, et c'était comme d'évêque, c'est De Unitate Trinitatis, c'est autrement dit, comment voulez-vous faire l'unité de nos communautés si ce n'est par ce mystère de Dieu? Et c'est Saint Cyprien, évêque de Carthage, nous sommes dans le quartier Saint Cyprien ici à la radio, et qui définissait l'Église, c'est le numéro 4 de Lumen Gentium. Ainsi l'Église est-elle le peuple unifié à partir de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment voulez-vous faire l'unité d'une communauté, quelle qu'elle soit, sa taille, si ce n'est à partir des unitatés? Et c'est la grande prière de Jésus, et qui fait pour moi la trame de ma mission ecclésiale, qu'il soit un pour que le monde croit. Mais ce n'est pas n'importe l'unité qui vient de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de qui nous sommes baptisés, et que à qui nous revenons tous, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Gloria, le Credo, tout ceci sont trinitaires. Donc on ne peut pas faire l'unité d'une communauté quelle qu'elle soit sans partir de cette unité qui est à l'origine de tout et qui est la fin de tout. Alors, vraiment, ça me tient vraiment très à cœur. Et cette rosée de l'Esprit-Saint est le lien entre le Père et le Fils. Et raccrochons-nous, un des participants hier disait aussi cette formule, la vie spirituelle, c'est le don de l'Esprit-Saint, c'est de vivre l'Esprit-Saint, c'est celui qui fait l'unité, dans l'unité du Saint-Esprit, comme disent les oraisons. Et c'est pour ça que cette rosée était éminemment bienfaisante. Et il faut l'accueillir de tous nos pores d'âme, si je puis dire.
J'aimerais qu'on aille maintenant à la fin de votre ouvrage. En épilogue, vous donnez un texte que vous aviez donné donc, il y a quelque temps, en 2016, sur le roi David. Alors, on ne va pas le parcourir in extenso, mais on peut...
Parce que c'est David, c'est l'auteur présumé de tous les psaumes. Ici, vous voyez, c'est le cantique des montées de David, pour le 132 que nous évoquions tout de suite, là aussi. Donc, il ne faut pas dire qu'il a composé tous les psaumes, mais il est celui qui a lancé les psaumes.
Alors, moi j'y ai lu aussi, peut-être me suis-je trompé, hein, qu'on peut lire aussi quelque chose de vous. David est celui qui a été choisi par Dieu, on va dire contre toute attente d'une certaine manière, vous pourriez peut-être rappeler l'histoire, et j'imagine que vous ne saviez pas qu'un jour vous seriez père abbé, voire archevêque pendant autant de temps. Est-ce que David, c'est un compagnon comme ça pour un homme comme vous quand on a de telles responsabilités?
Tout à fait. David m'a beaucoup séduit, si je puis dire. Et David, ça veut dire d'ailleurs en hébreu Dawid, c'est le bien-aimé. Ça veut dire le sens de ce prénom, c'est le bien-aimé. Et vous savez qu'à cette antenne de Radio Présence aussi, je commande depuis déjà un certain nombre de mois, même d'années maintenant, de page après page, le premier et le deuxième livre de Samuel qui raconte l'histoire de David. Et c'est un livre que j'ai déjà écrit, mais qui n'est pas publiable encore tel que quel pourra je travailler quand je serai émérite. Donc cette figure de David m'a beaucoup séduit à accompagner.
Alors pourquoi, par exemple ?
Parce que c'est un homme qui, en effet, a été le dernier de la famille, bien que ce soit moi je suis l'aîné de quatre garçons, là ça arrête la comparaison, et il a été le dernier de la famille, est un peu celui qui a été laissé pour compte en train de paître les brebis de son père dans le sud de Bethléem, mais un homme qui avait eu une âme tendre et forte à la fois. C'était un guerrier, c'était pas du tout une mauviette d'aucune manière, et qui a eu à la fois qui aimait les femmes, comme disent le texte et les sourds le montrent bien, mais qui avait un homme extrêmement délicat dans l'amitié, notamment avec Jonathan, qui était le fils de Saül, qui était un petit peu son adversaire et qui voulait le tuer. Et donc, dans David, vous avez à la fois la relation qu'il avait avec Dieu. D'abord, la relation était une relation de pleine confiance, et il était relatif à Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le relatait à Dieu, il le mettait à Dieu, et c'est ça qui est sa grâce particulière. Mais ça se répercute aussi dans ses relations humaines, notamment avec la finesse ou la délicatesse de son affection amicale pour Jonathan. Et c'est un homme fidèle à Dieu, et même au cœur de son péché, son double péché d'adultère et d'assassinat, pour avoir Bethsabée et avec Uri le Hittite. Bon, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas, j'ai rien contre les enfants de cœur, bien sûr, imaginez bien, mais c'est un servant d'hôtel, mais c'est quelqu'un qui était un violent parfois, qui était amoureux, mais un homme qui s'est toujours référé à Dieu et qui a reconnu ses fautes, et que Dieu aimait véritablement. De Dieu a choisi David, il était aimé de Dieu. le bien-aimé.
Et vous citez « Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». Et puis vous lancez cette question aussi au regard de ce que vous livrez de vous, qu'on peut se demander, qu'on peut se poser pour chacun de nous. Comment prenons-nous au sérieux le choix dont nous avons été l'objet ?
Nous sommes aimés de Dieu. Et puis que comment répondre à cet amour ? C'est là qu'on revient à Emmanuel. Dieu est avec nous, comment sommes-nous avec Dieu ? Dieu nous a aimés et comment l'aimons-nous ?
J'aimerais qu'on finisse par la conclusion de votre ouvrage, donc les 15 cantiques démontés. Cette fois, ce n'est pas les psaumes que vous citez, mais c'est Saint Augustin. C'est un Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, bénissons le Seigneur, chantons et marchons, comme le répète Saint Augustin dans un sermon de Pâques. Nous soutenons les uns les autres dans les montées. Et ça commence, chantons ici-bas l'Alléluia au milieu des soucis. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sermon de Saint Augustin ?
L'Alléluia est un mot qu'on trouve dans les psaumes. Dans les psaumes, dans le dernier des psaumes en particulier, plus on arrive vers la fin des psaumes, plus ce mot Alléluia arrive, qui veut dire littéralement en hébreu louer le Seigneur. Yahvé, le Alléluia. Allal, ça veut dire louer, et Allelu, c'est louer EZ, et Yah, le Seigneur. Donc c'est louer le Seigneur. Et donc, même si c'est un carnet de chant, qui est un carnet de guerre, et pour nos chemins, le sous-titre ici, c'est des psaumes pour nos chemins d'église, n'est-ce pas ? Même s'il s'agit d'un carnet de chants et de chants de guerre à certains moments, mais c'est un chant aussi de louange. Tout ceci est dans un contexte de louange, et on a appris, notamment par des communautés peut-être de renouveau, entre autres, l'importance de la louange, la force de la louange, et quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons toujours louer le Seigneur, et le Seigneur s'intéresse à nous, nous aide, et puis nous donne de dépasser les épreuves et ceux dont on a bien besoin dans le contexte actuel.
Et bon, on finira en citant Saint Augustin, chante et marche, chante pour soutenir ton effort, ne cultive pas la paresse, chante et marche, progresse dans le bien, chante et marche sans t'égarer, sans reculer, sans piétiner, chante Alléluia. On entend bien qu'il faut le chanter et tourner vos regards vers Jérusalem.
On chante, des psaumes se chantent, c'est une prière adressée à Dieu et accompagnée par des instruments à cordes, nos cordes vocales qui font vibrer nos cœurs.
Eh ben merci Monseigneur Legal, je rappelle le titre de votre livre, Les 15 cantiques démontés, paru aux éditions Paroles et Silences et Presse universitaire de l'Institut catholique de Toulouse. Merci.
Merci Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.